Tout le monde m'entend? C'est bon. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous proposer ce matin avec l'agroforesterie d'illustrer la reconfiguration des politiques agricoles au nom de la transition agroécologique. Donc, il s'agit d'une thèse en sociologie donc dirigée par Jacqueline Candeau de l'IRSTEA et Pascal Ragouet de l'Université de Bordeaux, et elle est financée par la Fondation de France. Donc, je souhaite introduire mon propos par la rupture historique du XXe siècle entre le modèle de la polyculture élevage à gauche et donc la politique de remembrement pilier de la modernisation agricole dont on peut voir les conséquences sur certains territoires à droite, ici dans le bassin rennais. Donc, cette rupture semble si radicale qu'encore aujourd'hui, beaucoup pensent que le rapprochement entre l'arbre et l'agriculture reste hypothétique. Donc, pourtant, l'agroforesterie, on le voit lors de ces journées, est de nouveau soutenue dans le cadre des politiques agricoles. Alors, avec un concept que vous connaissez tous ici, donc formulé en 1978 par John G. Benet, donc qui désigne l'association de pratiques agricoles et sylvicoles sur un même espace et marque donc une alternative avec l'agriculture moderne de spécialisation des cultures. Donc, je vais proposer, pour le voir, une sociologie configurationnelle développée par Norbert Elias. Donc, le point qui nous intéresse dans cette sociologie, c'est le degré de complexification d'une configuration sociale qui correspond à la diversification des fonctions sociales parallèles à la croissance des interdépendances entre individus et groupes sociaux. Donc, voici une représentation de quatre configurations qui, de mon point de vue, ont une influence importante sur la reconfiguration, sur la trajectoire de l'arbre dans les politiques agricoles. Donc, vous avez sur l'axe des abscisses le degré d'association de l'arbre au système productif et en ordonnée le degré de complexification de la configuration sociale, avec donc des flèches horizontales et verticales qui représentent donc les transformations du cadre interprétatif, c'est-à-dire les façons de voir et penser l'arbre en agriculture, et donc les flèches obliques qui représentent les modes organisationnels de la profession, tout simplement. Donc tout commence dans les années 60 avec la politique de modernisation agricole, dans laquelle le remembrement est vu comme un moyen d'augmenter la productivité totale à l'hectare en favorisant notamment la mécanisation. Ce cadrage aboutit à une seconde configuration, donc celle de l'agriculture spécialisée, dans laquelle l'arbre sort assez fortement du référentiel métier des agriculteurs. Et cette configuration va rapidement être soumise à des controverses environnementales, mais aussi sanitaires, donc avec tous les éléments qu'on connaît de pollution de l'eau, problèmes d'érosion, etc. Donc face à ces constats, peu à peu, l'arbre va devenir l'objet d'un problème public et en étant porté donc en étant soutenu par les porteurs de cause de l'arbre en agriculture, donc qui a passé par des associations locales, notamment assez précocement. L'agroforesterie est devenue un problème public dans un cadre où le développement sectoriel a été amené à cohabiter avec le développement territorial qui, dans la PAC, est représenté par les piliers 1 et 2. Et donc, cela aboutit à une troisième configuration d'agriculture multifonctionnelle dans laquelle l'agroforesterie a été non seulement un moyen de diversification des productions, mais aussi d'augmentation de la productivité totale à l'hectare. Et donc, les acteurs de l'agroforesterie se sont peu à peu organisés en réseaux, et donc cette journée l'illustre encore. Et donc, ces réseaux ont peu à peu complexifié la pratique de l'agroforesterie, et ont contribué à l'élaboration donc de la dernière configuration, celle de l'agroécologie, dans laquelle l'arbre devient également, enfin rentre au cœur du schéma productif, notamment avec les éléments de services écosystémiques. Et on le voit ici avec l'élevage, l'arbre entre vraiment dans le schéma productif. Donc très rapidement, et nous aurons l'occasion de les discuter, trois séquences des trajectoires de l'arbre en agroforesterie, donc une trajectoire française mais aussi européenne. Donc une première séquence de troubles suscités par la politique de remembrement, puis une séquence de prise de conscience de l'impact sur l'environnement, et donc un renversement du cadre interprétatif de l'arbre en agriculture, donc qui va commencer avec on est dans l'élevage. Donc, qui va commencer notamment avec les haies, et puis progressivement dans les années, à la fin des années 80 et puis surtout 90, donc avec l'agroforesterie également intraparcellaire. Je vous ai pas perdu, ça va? Donc, un renversement du cadre interprétatif où finalement on sort d'une conception où l'arbre est inutile, voire gênant dans l'agriculture, à une conception où peu à peu l'arbre retrouve sa place dans le schéma productif. Et donc, une dernière séquence, celle de la mise à l'agenda politique, qui a débuté notamment dès les années 90 pour les haies, notamment avec l'action des conseils départementaux, mais surtout sur la scène nationale française et européenne, dans les fenêtres de tir donc de l'agroécologie et du verdissement ou de la conditionnalité de la PAC. Donc, en conclusion, je fais l'hypothèse que la place de l'arbre dans le système productif est un indicateur des reconfigurations des politiques agricoles. Deux exemples, donc l'agriculture spécialisée était une configuration de simplification du schéma productif, et ce qui aboutit à une simplification des fonctions sociales. En effet, le chercheur cherchait, le conseiller conseillait et l'agriculteur produisait. Donc cela dans une vision vraiment très verticale du développement agricole. Alors qu'aujourd'hui, dans l'agroécologie, il semble que les schémas de production se recomplexifient. Et dans le même temps, la conception des politiques agricoles semble aussi ramener une diversité d'acteurs organisés en réseau et dont le fonctionnement engage et augmente le degré d'interdépendance au sein de la configuration, donc ici dans l'agroécologie. Cette politique s'appuie également sur des collectifs d'agriculteurs, donc on voit que les GI2E deviennent de plus en plus nombreux, à travers donc une vision des politiques agricoles qui semble nuancer l'acception moderniste du développement agricole, donc la vision verticale, et puis adossée à la PAC, pour finir, les politiques du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation deviennent plus indirectes et incitatives. L'État devient alors un État régulateur, donc au sens de Patrick Hassentefel. L'État régulateur donc souligne le passage du faire au faire-faire. Il est donc plus dans une posture en interaction qu'en action. Il délègue, pilote et oriente plus qu'il ne met en œuvre. Je vous remercie.
Merci. Donc moi j'ai une question sur ta présentation. Alors j'imagine que en 5 minutes, je sais que c'est compliqué, mais tu sembles présenter le parcours de l'agriculture, sur tes deux facteurs de manière assez linéaire. Or aujourd'hui, on a un constat encore d'actualité, scientifique assez évident sur l'effondrement de la biodiversité, sur la disparition des haies. Donc est-ce que tu penses, dans ta façon de présenter, tu considères qu'aujourd'hui on est à l'ère de l'agroécologie et qu'on est véritablement en train de mettre en place la politique qu'il faut pour ramener l'arbre? Ce n'est pas ce que je constate, moi, sur le terrain. Comment tu traites cette non-linéarité et ces problématiques plutôt duales, voire même beaucoup plus compliquées, des agricultures qui se croisent? et qui ne s'entendent pas forcément.
Ben, là, la représentation, elle est justement pas linéaire, puisqu'on voit qu'il y a plutôt un effet circulaire et qui peut tout à fait conduire à des renversements. Donc justement, j'ai essayé en fait de trouver une schématisation qui soit pas linéaire. Après, la configuration sociale, il faut la voir un peu comme un paysage de fond. C'est un fond social qui oriente les pratiques, mais qui ne va pas révolutionner les pratiques. Et donc, il y a forcément aujourd'hui un décalage entre l'intention ou l'affichage politique qui a pu avoir lieu lors du dernier quinquennat avec l'agroécologie et les pratiques. Après, cependant, en sociologie, on s'intéresse à un faisceau d'indicateurs et on peut quand même observer une multiplication d'engagement des acteurs, des lycées agricoles, des scientifiques qui se rapprochent du terrain, des collectifs d'agriculteurs qui s'organisent, qui travaillent avec des scientifiques. Donc il y a quand même une dynamique qui est en place qui me semble aller dans le renforcement de ces pratiques-là. Après, il y a toujours un décalage et les politiques publiques mettent toujours du temps aussi à s'appliquer concrètement sur le terrain. Donc c'est la difficulté d'analyser les choses dans le temps long sans les rendre linéaires, effectivement. Mais là, à la fin, 2018, moi je fais l'hypothèse qu'on a quand même une tendance vers l'agroécologie dans les pratiques et les politiques agricoles. Après, là, par exemple, pour 2020, sur la PAC, quid de ce qui va se passer? Est-ce que finalement, la trajectoire, elle ne va pas redescendre? Voilà. C'est vraiment la difficulté d'illustrer les choses.
Oui, moi, je suis assez d'accord dans le sens où en Bretagne, par exemple, il y a un dispositif qui s'appelle Brest Bocage qui existe depuis longtemps et finalement, on s'aperçoit qu'il y a quand même un linéaire de haies qui n'est pas, pas reconstruit ou l'arbre ne retrouve pas toute sa place. Donc, même s'il y a des politiques qui corrigent, en fait, des excès de la modernisation, etc., on s'aperçoit qu'on ne va pas retrouver le maillage. Enfin, il y a quand même une marge pour retrouver le maillage qu'on avait antérieurement. Donc, voilà, moi, je suis un peu... effectivement, c'est un bruit de fond. Sur le terrain, ce n'est pas toujours ce qu'on observe aujourd'hui. Alors, peut-être qu'il faut du temps. Moi, ma question, c'était plus sur les réseaux d'action publique. Comment est-ce que vous avez analysé ces réseaux-là? Est-ce qu'on pourrait avoir un peu plus de précision sur ce que sont ces réseaux? Est-ce que c'est vraiment que des réseaux autour de l'agroforesterie ou est-ce que c'est un peu composite avec d'autres réseaux qui font un peu coalition, on va dire, hein, puisqu'en sciences politiques, on parle de coalition d'acteurs?
Alors... Je pense que l'architecture du projet agroécologique a été fondée justement donc sur, premier point, les collectifs d'agriculteurs, les GI2E, mais aussi fondée sur les acteurs qui accompagnent ou qui environnent les politiques agricoles. Et donc, je pense que cette définition du réseau d'action publique est assez applicable dans le contexte de l'agroforesterie. Dans le sens où on voit que le problème public s'est structuré à partir des années 80, donc il est devenu une question sociale et une question politique sous le poids de l'intervention de scientifiques, mais des associations aussi militantes et puis des institutionnels. Et puis peu à peu, ce réseau, enfin ces acteurs qui étaient un petit peu seuls dans leur coin, se sont peu à peu structurés. Donc il y a eu par exemple la création d'associations nationales, un réseau européen aussi qui s'est mis en place. Et aujourd'hui, le pilotage, pour prendre cet exemple du plan de développement d'agroforesterie, il y a un comité de pilotage qui... le plan déjà a été conçu en associant donc les acteurs de l'agroforesterie. Et ensuite, donc il y a un comité de pilotage qui voit son évaluation et les conditions de sa mise en œuvre. Et au-delà de ce plan national, c'est aussi la création d'un RMT agroforesterie qui a été présenté tout à l'heure. C'est aussi un réseau rural. Donc il y a quand même un certain nombre d'indicateurs qui montrent qu'on s'oriente, en tout cas pour le champ de l'agroforesterie, vers une gouvernance en réseau. Et je pense que ça, c'est vrai dans d'autres domaines de l'agroécologie. Et c'est un peu la richesse de ce dispositif, c'est de se reposer sur ce qui émerge du terrain et des dynamiques qui sont portées dans le cadre de ces réseaux.
Merci, et je m'excuse pour le retour intempestif du loup qui était mal maîtrisé, comme on le sait dans les campagnes. Je suis un peu surpris par la citation de John Benn pour la création du mot agroforesterie, parce que 78, c'est la date de la création de l'Institut international de recherche en agroforesterie, qui a été précédée par une dizaine d'années de réflexion et de publication sur le sujet. Donc je pense qu'on peut remonter un peu plus en avant, sachant que le mot agroforesterie est un mot totalement anglophone, qui est passé en français, mais qui est un peu malheureux en français. Si on faisait vraiment des racines latines, on devrait dire agriforesterie, non pas agroforesterie. On a gardé le terme anglais, mais ce n'est pas très grave. Moi, j'ai une question. Effectivement, je rejoins un peu ce qui a été dit. C'est, où est l'écart entre le discours et la réalité, en fait? Et votre virage, là, que vous mettez à partir de 1990, je l'ai vécu. Ce n'était pas à partir de 1990. Le livre blanc sur l'agroforesterie qu'on a fait, il date de 1999. Et la première mention de l'agroforesterie dans les politiques publiques en France est une circulaire du ministère de la Culture de 2006. Donc je trouve que ce virage est un peu trop précoce. En fait, c'est beaucoup plus récent que ça en termes de prise en compte par les politiques publiques et par la société. Moi, ma question sera peut-être, avez-vous regardé à l'étranger? Est-ce que vous avez une mise en perspective de ce que vous observez en France? Est-ce que c'est généralisable? Est-ce que vous avez cette perspective un peu internationale?
Alors, par rapport au virage, effectivement, je partage le redressement est probablement trop caricatural. Après, je l'ai initié à partir de 90, dans le sens où il y a quand même eu des politiques départementales, notamment autour du bocage. Et donc... Effectivement, agroforesterie, bon, la définition elle a longtemps été un peu hésitante, mais aujourd'hui, c'est quand même l'association de toutes les agroforesteries. Et donc, il y a eu quand même de nombreuses initiatives autour du bocage et des programmes de replantation dans l'ouest de la France qui n'ont pas toujours été très concluants non plus, parce qu'on était peut-être plus à l'époque dans une dimension environnementaliste. Qui n'a pas forcément réussi à associer les agriculteurs à la démarche. Donc voilà pour cet élément-là. Après, par rapport à la comparaison internationale, non, j'avoue que je n'ai pas assez d'éléments pour... Enfin, je n'ai pas la finesse de la trajectoire de l'agroforesterie dans d'autres...
Je voulais juste ajouter là-dessus, c'est que pour nos partenaires européens, la France fait figure de modèle. Et quand nous, on est en France, on dit « Ouh là là, le modèle, il n'est pas si puissant que ça ». Donc, c'est pour vous dire qu'ailleurs, c'est pire. Et que c'est voilà, le processus est encore long.
Je sais qu'en Espagne, il y a quand même des programmes. Enfin, la mesure 8.2, enfin, la 222 a été la plus utilisée en Espagne, notamment. Mais ça, pour des raisons historiques et des configurations agroforestières qu'il y a là-bas. Après, effectivement, ouais, je n'ai pas beaucoup de recul, mais je me suis centré sur la France. Peut-être trop centré, mais bon.
Question dans la salle ?
Moi, j'aurais une question, c'est comment on obtient ces résultats? C'est-à-dire, c'est une fouille de données, c'est l'étude des textes de politique, ou enfin, comment tu extrais tes
non,
trajectoires?
Oui, d'un point de vue méthodo. Non, c'est pas du quantitatif, hein, c'est vraiment une analyse qualitative. Donc, que j'ai mené auprès de 24 acteurs du réseau agroforestier en France, donc que j'ai essayé d'avoir la plus exhaustive possible sans non plus pouvoir aller voir tout le monde, mais c'est les scientifiques, c'est les acteurs associatifs, c'est les chambres d'agriculture. J'ai essayé quand même de balayer assez large, et en fait, c'est à travers le récit qu'ils m'ont donné, et puis on a des acteurs ici hein, dans la salle, c'est leur vécu, et donc à partir de là, J'ai pu tracer ces trajectoires, bon, qui valent ce qu'elles valent, hein. Mais c'est ça, croisé après avec les textes. Par exemple, là, 1962, donc création de la PAC, 1984, c'est le premier constat de surproduction au sein des politiques européennes. 1992, création du premier pilier de la PAC, justement pour découpler le revenu agricole de la production. Donc c'est quand même un tournant, pas environnementaliste, mais une prise en compte des questions environnementales. 99, donc là, c'est la dimension avec la multifonctionnalité, la dimension territoire qui vient. Donc c'est la création du second pilier de la PAC. Et puis après, voilà, ainsi de suite. On a par exemple un point important qui, dans la trajectoire de l'agroforesterie, c'est 2001-2005. Donc c'est le projet SAFE qui a vraiment été un outil de légitimation en fait de la pratique agroforestière. Donc à l'époque plutôt intraparcellaire, donc qui était dite entre guillemets moderne à l'époque. Et donc c'est cette conception-là qui a eu un écho en fait sur la scène européenne. Et donc c'est Monsieur Duprat pourrait en parler mieux que moi, mais ça a été une dizaine d'équipes à travers l'Europe, enfin un gros budget, donc c'était assez sans précédent. Alors qu'en France, on était plutôt au tournant des années 2000 où des laboratoires fermaient, donc par exemple le CEMAGREF de Clermont-Ferrand, l'INRA de Toulouse, qui étaient plutôt contraints de fermer ou de réorienter leur action. Donc voilà, c'est tout ce récit-là en fait qui me permet finalement de représenter les choses, mais uniquement d'un point de vue qualitatif.
Donc, Harold Rétoré, directeur de syndicat de bassin versant sur la Boutonne. Moi, j'avais une question aussi un peu sur les courbures finalement que vous avez appliquées sur ces trajectoires-là, parce que autant on peut effectivement sur le premier virage qui est un peu serré se poser la question de la date. Moi, c'est surtout la courbure qui est aussi très forte à partir que vous mettez vers l'agroécologie, sachant que on voit bien que la dynamique elle est encore en émergence, que en proportion de l'agriculture encore spécialisée qui tend un peu vers le multifonctionnel, l'agroécologie, ça reste une part quand même assez minime. Donc on a l'impression que la trajectoire va massivement vers l'agroécologie, et c'est peut-être une déformation de la représentation. Et justement, dans ces courbures et dans ces dynamiques, vous avez parlé du rôle un petit peu de tous les acteurs, notamment de l'État, et dans la première partie, dans le remembrement, dans la réorganisation du paysage agricole, l'État était hyper présent. C'était les ingénieurs des ponts, les ex-DDA qui ont fait ces travaux. Et aujourd'hui, quand on est dans le réseau d'action publique, l'État est moins fort, sauf en tant que police de l'eau, pour les corrections et l'application de la réglementation environnementale, notamment, mais nettement moins présent sur le correctif en termes de travaux, sur l'hydromorphologie, etc. Et c'est effectivement des réseaux d'action publique comme ceux qui sont présents ici, et les syndicats de bassin versant, qui n'ont pas du tout les mêmes moyens régaliens, enfin en tout cas réglementaires, qui n'ont pas un pouvoir de police, qui n'ont pas les moyens financiers que l'État avait avant pour faire tous les remembrements, parce que ça a été des dizaines, des centaines de milliers de francs à l'époque à l'échelle des territoires. Donc on n'est pas du tout sur une symétrie, et du coup, à la fois les courbures, les trajectoires et les dynamiques, à mon avis, enfin, il faut vraiment les relativiser, quoi, parce qu'aujourd'hui, on peine quand même à corriger tout ça, quoi.
Alors, je pense que je n'ai pas été assez clair. Ces trajectoires, c'est les trajectoires de l'arbre dans les politiques agricoles. Ce n'est pas l'arbre dans les pratiques agricoles. Hein. Donc, c'est vraiment à distinguer. Effectivement, dans les pratiques agricoles, je pense que les trajectoires, elles seraient pas les mêmes. Après, effectivement, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer à travers les configurations sociales. Dans les années 60, la configuration sociale, elle n'était pas du tout la même par rapport à celle d'aujourd'hui. Donc on a vraiment été dans une démarche de simplification à l'extrême des fonctions sociales. J'ai essayé de le dire, le chercheur avait une position, l'agriculteur en avait une autre. Et donc, la configuration était relativement simplifiée presque à l'extrême. Aujourd'hui, on est dans l'agroécologie, dans quelque chose qui est beaucoup plus complexe. Les rôles et les fonctions se sont multipliés. Donc, on n'a pas la même efficacité. Le changement, il ne peut pas être conduit comme il a été conduit dans le cadre de la modernisation agricole. Mais peut-être que la configuration plus complexe de l'agroécologie, elle se base sur ce qui se passe sur les territoires et elle donne une marge de manœuvre et une marge d'engagement des acteurs du territoire. Donc la politique dans sa mise en œuvre, elle est forcément moins radicale, mais peut-être qu'elle est plus, enfin moi c'est l'hypothèse que je fais, elle est plus durable dans le sens où ce qui est développé concrètement, c'est à l'initiative des acteurs. Ce qui n'était pas du tout le cas ou moins, de façon moindre à l'époque de la modernisation agricole. Voilà, c'est comme ça que moi j'ai essayé de repérer les choses. Après, bon, c'est pas, je ne dis pas que ça c'est une vérité. Hein.
Oui, alors merci pour ta présentation. Moi, je ne vais pas t'embêter sur la forme du schéma. Mais je trouve justement intéressant aussi dans ton diagramme, on n'en a pas parlé, de le rapprochement que tu fais entre le degré de simplification des agro-systèmes et le degré de simplification des structures, enfin, de la configuration des structures sociales. Ça, je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment, vraiment très intéressant là-dedans. Et je voulais savoir si, là, c'est plutôt une question un peu de théorie SHS, mais si, parce que là, ton analyse, elle est très fonctionnaliste sur le mode Elias, tu as cité. Et je me demandais si ça ne valerait pas le coup aussi d'aller peut-être voir du côté de la sociologie des attachements et d'Antoine Aignon pour essayer de comprendre aussi comment le remembrement est aussi une réduction, une simplification des formes d'attachement. C'est-à-dire que attachement étant ce qui nous tient et ce à quoi on tient et ce qui nous tient. Et les attachements, typiquement dans le remembrement, ben on ramène tout un réseau complexe de rapports à la terre à une valeur agronomique qui va être substituable et dans laquelle, du coup, l'arbre va pouvoir être une variable d'ajustement, voire même carrément quelque chose qu'on peut ôter sans problème. Et voilà, est-ce qu'il n'y a pas aussi une complexification conjointe des attachements au sein des agroécosystèmes et au sein des structures sociales, du coup, qui vont de pair à partir du moment où on pense l'agriculture en termes agroécologiques et plus en termes modernisateurs?
Oui, effectivement, je pense que c'est... Je ne connais pas, hein, l'auteur et la théorie des attachements, mais effectivement, j'y vois du sens. Dans le sens où, dans la modernisation agricole, l'attachement, la valeur, c'était vraiment le progrès. Toute la société s'est engagée derrière cette valeur de progrès, et y compris les agriculteurs. Donc, c'était la CNJA à l'époque, qui est devenue après la FNSEA, qui était centrée sur cette valeur de progrès et de modernisation à marche forcée. Et donc, dans la trajectoire, enfin moi, dans ce que j'ai pu analyser aussi, c'est des agriculteurs qui ont été troublés, qui ont été presque blessés, en fait, puisque leur attachement aux structures arborées était complètement nié, et donc c'était les péquenauds. C'était hier dans un champ, on en rigolait, c'est l'agriculture de pépé. Et effectivement, il y a quelque chose de relatif à l'attachement. Et finalement, les valeurs du paysan pépé, alors j'ai présenté une vidéo la dernière fois sur un vieil homme qui dit, mais alors pourquoi vous voulez pas échanger vos parcelles? Donc il commence par dire, elles me plaisent bien, où elles sont, ces parcelles-là? Et puis après le géomètre, il insiste, il dit, mais oui, mais pourquoi? Il essaie d'aller plus loin. Il dit, j'ai des arbres dedans, quoi. Il insiste, l'ancien. Donc il y a vraiment cette dimension-là émotionnelle de l'attachement, et après Elias a aussi aborde ça, donc les émotions. Mais effectivement, je pense pouvoir creuser. Et donc dans l'agroécologie, je pense que poursuivre aussi des collectifs en agriculture de conservation, à partir du moment où un agriculteur s'intéresse à la vie de son sol, je pense qu'il entre dans une logique agronomique et un attachement aux mécanismes naturels et au fonctionnement de la nature. Et certains, je les vois qui n'avaient quasiment aucun intérêt pour l'arbre, se dire, finalement, ils reprennent la logique et ils se disent, l'arbre, finalement, il peut avoir une fonction, il peut être un atout dans cette démarche-là agronomique.
Bien, merci. On va être obligé d'arrêter là, parce qu'on est un tout petit peu en retard, là. Donc, eh bien, on va continuer donc avec Carole Villot. Merci. Sûr qu'il y a pas mal de choses à dire hein, sur